RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket time sur RMC. C'est un épisode très attendu. Car c'est un épisode de post-season où la star est française. La star, c'est Victor Wembanyama. Basket Time spécial Wembanyama avec Stephen Brun, Fred Weiss et Arnaud Valadon en direct de New York. Bonjour messieurs.
Salut mon petit Pierrot.
Morning guys.
Ça va Arnaud ? Comment ça se passe?
Écoute,
à New York ?
Écoute, ça va bien. On est arrivé hier. Je suis arrivé hier. Écoute, j'ai pas encore trop profité. On est à Brooklyn, pas très loin du Barclays Center, parce que c'est là que dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h du matin, 2h15, où Adam Silver appellera Wembanyama à la première place. Donc on est à quelques encablures voilà, de cette salle qui d'habitude est la salle des Nets.
T'as voyagé en business ? T'es régalé ?
Non, écoute, ça va, un vol de jour, dans ce sens-là, vol de jour, Paris-New York, ça va.
Fais-nous un petit point météo, là, fais-nous une petite carte postale d'entrée de jeu, là.
Écoute, le soleil est en train de se lever, puisqu'au moment où on enregistre, il est 6h du matin à New York. Petit soleil, il va faire un petit 20 degrés. C'est loin des 45 degrés prévus à San Antonio. Hein. J'ai déjà regardé, c'est la canicule là-bas.
Parfait pour un petit footing, ça, à 6h du matin, après l'émission.
Ouais, franchement, en plus, on n'est pas très loin de East River. Du quartier Dumbo, quartier industriel qui est devenu très, très branché avec beaucoup de bars. Donc non, il y a tout ce qu'il faut pour aller faire le petit footing.
Tu vas nous raconter la folie Wembanyama à New York. Je vous rappelle aussi que RMC organise une nuit de direct pour vivre la draft 2023. La nuit de la draft, c'est de minuit à 4h du matin avec la Dream Team, Stephen Brun, Fred Weiss, Arnaud Valadon sur RMC, donc en direct dans la nuit de jeudi à vendredi. Et vous pourrez podcaster bien sûr cette émission ensuite sur rmc.fr sur la page de Basket Time. Donc si vous n'avez pas envie de veiller cette nuit-là, vous pourrez réécouter tout ça avec plein d'invités à venir. Et puis surtout, le moment historique qu'on attend tous côté français, le moment où Adam Silver appellera Victor Wembanyama. Alors les thèmes de ce podcast sur Wembanyama, jusqu'où ira Victor, voilà. Quel avenir vous lui voyez? Qu'est-ce qu'on peut espérer? À quoi peut-on croire pour Wembanyama? Quelles sont les autres attentes de cette draft? Parce qu'il y a beaucoup d'actu, évidemment, une draft, c'est pas que le numéro 1. Et puis dans la partie historique, vous me direz quelle est pour vous la plus belle surprise de l'histoire pour les Français de la NBA. Voilà, un joueur peut-être qu'on n'attendait pas aussi haut et qui a eu une très belle carrière. Le quiz, le thème du quiz, vous le voulez?
Oui.
C'est pas
oui.
Victor Wembanyama.
C'est quoi?
C'est les Français de la NBA, tout simplement.
Les Français de la NBA. Ouais, t'es pas cassé
facile,
la tête. Hein.
Pas cassé la tête du tout. Mais il y aura une belle nouveauté dont je suis très fier.
Il est content.
Ouais, parce que c'est tactique, on va jouer tactique.
Il a répété le mot tactique 14 fois tout à l'heure.
Ouais, j'étais tout seul en train de préparer mon quiz et je me chauffais.
Il est tactique.
C'est tactique.
Les petites enchères.
Non, c'est pas des enchères, c'est tactique, vous allez voir. C'est un truc inédit encore.
Mec, c'est tactique quoi.
C'est quoi? C'est une bataille navale?
Ah, c'est ça un peu ça. Allez, Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr et c'est un épisode important. C'est un épisode spécial Victor Wembanyama.
Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver.
With the first pick, the San Antonio Spurs select
Wembanyama. Throwing it down.
Clairement, ce moment. Mon nom va être prononcé par Adam Silver, c'est quelque chose que j'ai imaginé déjà et dont j'ai rêvé en fait depuis longtemps.
Oh, la connexion Thomas, Wembanyama, le reverse de Wemby, incroyable alley-oop.
Bon, je suis fait pour ça, j'ai pas d'inquiétude.
Alors, un Français numéro 1 de la draft NBA, évidemment c'est historique et c'est ce qu'on devrait vivre sans surprise. Dans la nuit de jeudi à vendredi, tous les espoirs sont permis. Jusqu'où ira Victor Wembanyama? Pour l'instant, il est à New York, Arnaud Valadon aussi, et c'est la folie furieuse Arnaud.
Oui, il est arrivé lundi, alors déjà un peu coup de communication avec la compagnie aérienne choisie pour montrer voilà, Wembanyama de la place. Vous connaissez ça messieurs les basketteurs. Porte, à côté de la porte de l'avion, vous avez ce qu'il faut pour placer vos issues de secours. Voilà, merci Fred, votre double décimètre. Alors lui, en plus, à 2m23, évidemment, ça prend de la place. Il arrive à l'aéroport de Newark en fin de journée. Et déjà, au moment de sortir, il y a des fans qui sont là, qui lui demandent des autographes. Ils étaient à peu près une trentaine. Déjà un accueil, on peut se dire quand même, il arrive. Mais non, ils étaient partis à New York, ses fans, pour accueillir et voir Wembanyama. Déjà la sécurité, c'est un phénomène partout. La journée de mardi, avec cette image incroyable, Wemby qui a pris le métro de New York. Il s'est rendu au match des Yankees, la franchise iconique de baseball, qui jouait en fin de journée. Il a effectué le premier lancer du match. Et c'est un geste effectué généralement par les VIP, les stars. Les Américains ont d'ailleurs été bluffés, non pas par le lancer, mais par la taille de la balle de baseball dans la main de Wemby. Une balle de baseball, c'est à peu près une balle de tennis, un peu plus gros, mais la balle, elle faisait minuscule. Et puis également, il a participé au podcast de JJ Redick, qui est un podcast très respecté, très écouté aux États-Unis. JJ Redick, ancien excellent joueur. Et là, Wemby a fait parler sa maturité dans ses réponses, son ambition, le travail, mais aussi des valeurs. Et ça, c'est évidemment un cocktail qui plaît énormément aux Américains.
Alors évidemment, le moindre pas est commenté, les moindres faits et gestes sont rapportés, mais tout ça, ça pèsera peu de choses lorsqu'il faudra scorer sur le terrain, sur le parquet. Et c'est de ça dont on va parler, messieurs. Quel avenir voyez-vous à Wembanyama? Jusqu'où ira-t-il? C'est évidemment difficile de savoir parce que des numéros 1 de draft qu'on fait des flops, il y en a des tonnes. Alors tous n'étaient pas aussi attendus que Victor, évidemment. Hein. Lui, je pense que depuis LeBron James, on n'a jamais vu ça, Fred. Hein.
Non, on n'a jamais vu ça au niveau de la hype. On a un cocktail complètement fantastique d'un joueur de très grande taille, capable de shooter, de courir, de défendre, de switcher défensivement sur n'importe qui, capable de faire des turnarounds, de monter le ballon. Enfin, j'en passe et j'ai certainement oublié des qualités qu'il a. On n'avait jamais vu ce cocktail-là. Et donc forcément, ça fait fantasmer tout le monde.
Et alors pourquoi il a le, comment dire, le prototype pour faire fantasmer la NBA? Qu'est-ce qui les excite autant?
Bah, ce qui les excite, c'est Fred l'a fait de la rappeler, c'est que cette alliance de taille, dextérité, le fait d'être capable de tout faire sur un terrain, on va pas rappeler à chaque fois les qualités basket de Victor Wembanyama.
Chaque année, t'as des gars en université.
Non, pas 2m23.
Qui font des choses fantastiques.
Pas 2m23. Et t'as dit quelque chose d'important, c'est que tu me parles d'université. Et aujourd'hui, je crois que la fac est plus vraiment révélatrice de la domination des joueurs. Ce que fait Victor Wembanyama, et d'ailleurs JJ Redick dans son podcast, pas celui avec Victor Wembanyama, mais la semaine d'avant, dit qu'aujourd'hui des garçons qui, comme Wembanyama, à l'image de Luka Doncic ou de Nikola Jokic aussi avant d'arriver en NBA, qui ont évolué dans des championnats de bonhommes, avec des adultes, avec la pression de chaque match, partent aujourd'hui avec énormément d'avance par rapport à des gamins qui ont évolué en NCAA. Et ces critères-là font que Wembanyama, pour moi, je suis très très optimiste sur l'adaptation. Sur le sportif, j'ai aucun doute, mais sur cette capacité à gérer la pression des résultats,
il
l'a vécu. Il
est monstrueux.
Il est monstrueux. Il a la pression pour l'instant.
Il gère ça comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il est né pour ça, il l'a dit, et je suis d'accord avec lui.
Et on l'avait déjà vu au début de saison quand il part à Vegas pour montrer ses talents, où c'était le duel Scoot Anderson, dont on reparlera plus tard, versus Victor Wembanyama dans le pays de Scoot Anderson. Et Victor Wembanyama n'a pas déçu.
Il avait tout fait.
Il avait tout fait et il a mis fin au débat, parce qu'à l'époque, il y avait encore un débat sur qui sera le futur numéro 1 de la draft entre Scoot Anderson et Victor Wembanyama. La pression du résultat, la pression de gérer une saison, la pression d'être le leader offensif d'une équipe, il l'a eu dans ce championnat de France, qui est peut-être un des 5 meilleurs championnats aujourd'hui en Europe. Et puis,
Il y a un championnat très athlétique qui correspond peut-être mieux. Si on devait comparer avec la Grèce, par exemple, c'est le premier championnat qui vient à l'esprit, ça n'a rien à voir.
Non, on est plus proche. Ça se rapproche de l'NBA.
Malgré tout ce que tu dis et les propos de JJ Redick, repose sur la table son choix de ne pas faire l'Euroleague. Parce que pour le coup, ça aurait été encore un niveau très supérieur.
Oui, ça aurait été un niveau supérieur. Maintenant, l'Euroleague, il l'a un petit peu touché du doigt l'année dernière avec l'ASVEL, mais pas suffisamment à cause des blessures. Mais il a emmené une équipe, je ne vais pas dire moyenne, mais qui était très loin d'être attendue en finale du championnat de France. Ils ont été deuxième.
Je pense que tu peux dire moyenne.
Sans
honte, il y avait des jeunes joueurs. Donc au départ, on ne pouvait pas miser sur le fait que cette équipe aille aussi loin. C'est impossible.
Ils ont dépassé les attentes. Enfin, finale de championnat, être deuxième du championnat toute la saison. Et n'oubliez pas une chose sur l'aspect sportif. C'est qu'en NBA, c'est plus facile. C'est plus facile qu'en Europe. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que si ça avait été moi qui le dis, les gens auraient pu rigoler. Mais c'est Doncic, c'est Damien Lillard, c'est Lauri Markkanen qui le disent. Ce sont des garçons qui ont parce que Damien Lillard avec Tim Hussey a vu ce que c'était jouer, ce que jouer dans le basket FIBA. Eux te disent qu'en NBA, c'est beaucoup plus facile de mettre des points. Et quand j'entends Vincent Collet dire faire des projections, ce qui est toujours compliqué de dire les projections chiffrées d'un garçon dans une équipe, quand Vincent Collet te dit qu'il va faire 20 et 7 de moyenne, j'y crois.
Pour sa première année.
Pour sa première année, j'y crois parce que tout est plus facile en NBA. Il y a beaucoup plus de place. Il n'y a pas des mecs qui t'attendent sous le cercle. Ils n'ont pas le droit d'être sous le cercle tout seul à t'attendre. C'est beaucoup plus facile quand je vois que Paolo Banchero avec Orlando a été rookie de l'année en faisant 20 points, 7 rebonds, 4 passes dans une petite équipe. Je vous dis que Victor Wembanyama va pas être loin d'être rookie de l'année, même si la QV 2023 est plus forte que celle de 2022. Victor Wembanyama, s'il fait 20 et 7, comme le dit Vincent Collet, et ce que je pense aussi, il va pas être loin d'être rookie de l'année.
Donc aucun doute sur sa première... Est-ce que déjà aux États-Unis on se projette sur ces choses-là, Arnaud ? C'est-à-dire, est-ce que déjà tu as vu, même si tu viens d'arriver bien sûr, des papiers dans les journaux ou dans les émissions de télé sur ce que peut apporter dès sa première saison en termes statistiques, chiffrés, Victor Wembanyama ?
Tu sais, les États-Unis, les fans américains sont des grands passionnés de fantasy, tu sais, ces équipes où tu prends des joueurs. Donc...
Pierrot aussi, t'inquiète pas.
Pierrot aussi, effectivement.
Je suis meilleur que la plupart des Américains, donc t'inquiète pas.
Avec mon petit gazon, ou même en NBA, ESPN, Yahoo font leur fantasy, c'est énormément populaire. Donc dès que Wembanyama a commencé un peu à émerger là, sur les 6 derniers mois pour les États-Unis, ils ont commencé, les différents sites, à faire des projections stats. Et effectivement, on est aux alentours de ce 20 et 10, 20 points 10 rebonds, on met également les contres qui sont importants, donc on en parle évidemment. Alors ça reste à voir dans ce collectif des Spurs, mais on s'attend tous à ce que Wembanyama fasse déjà une saison en double-double presque.
Est-ce qu'il va être le go-to guy des Spurs, Fred?
Bon, en tout cas, c'est la volonté qu'ils vont avoir directement.
Dès la première année
ils vont le traiter comme tel, ils vont tout faire pour que ça soit lui. Évidemment, je pense que Popovic est resté aussi pour ça. Parce
ça, c'est génial quand même. C'est incroyable.
C'est une très bonne nouvelle pour lui. Il a l'habitude des grands, il a l'habitude des numéro 1 de la draft, il a l'habitude de gagner des titres. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Il respecte le basket européen et c'est une bonne nouvelle aussi. Mais oui, je pense que d'entrée, on va essayer que ce soit le go-to guy. Alors, moi je pense aussi qu'il devrait être à 20-10 parce qu'il y a effectivement plus de spacing dans le basket NBA. Mais c'est un numéro 1 de la draft. Il n'y a que 3 joueurs non formés en NBA, aux États-Unis, pardon, qui ont été numéro 1 de la draft en NBA. Donc voilà, il y aura beaucoup de pression, beaucoup de pression.
Yao Ming, André Bargnani.
Et c'est tout. Et ce sera lui le troisième.
Ouais. Donc personne n'a aucun doute sur sa capacité à s'intégrer rapidement à la NBA.
Aucun doute, et il a la chance d'arriver dans une franchise. Alors certes, ça a été le marasme la saison dernière, ils n'ont gagné que 22 matchs, mais c'est une franchise, Pierrot, qui joue bien au basket. Ils étaient troisième au pass décisif derrière les Warriors et derrière les Nuggets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On n'est pas sur du 1 contre 1 outrance. C'était pas la foirefouille, en fait, les Spurs. Il n'y avait pas de joueurs de
c'est
très
idéal,
haut niveau.
Presque.
Il n'y avait pas de joueurs de très haut
c'est
niveau idéal. Qui leur permettaient de gagner des matchs. Mais il y a une base. Il y a une base.
Et c'est mieux que de jouer à San Antonio qu'à Houston, par exemple.
Oui, ou qu'à Détroit.
Ou qu'à Détroit.
Donc il y a une base de basket. Il va pouvoir se retrouver là-dessus. Et Pop, Fred l'a dit, il a géré des Robinson, il a joué des Duncan. Mais Wembanyama, c'est pas Robinson, c'est pas Duncan qui était. Alors, je ne vais pas te dire qu'il était unidimensionnel, mais offensivement, Duncan et Robinson avaient peut-être moins de choses que Victor Wembanyama, qui peut scorer à 3 points, qui peut scorer après dribble, qui peut tirer mi-distance, qui peut jouer de haut panier. Il y a beaucoup de choses. Après, cette équipe, qu'est-ce qu'on va attendre aussi? Wembanyama individuellement, on en a parlé, mais qu'est-ce qu'on va attendre de Wembanyama collectivement? Est-ce qu'il va être capable de faire progresser les Spurs? J'en doute pas, parce que 22 matchs gagnés, il y a moyen de faire mieux.
Déjà à 23, c'est mieux.
Paolo Banchero, il arrive à Orlando, ils ont gagné 22 matchs comme les Spurs, ils en ont gagné 34, 12 de plus. C'est quand même une progression significative. Mais surtout, San Antonio, est-ce qu'ils vont rester avec cet effectif-là? Parce qu'ils n'ont que 94 millions de masse salariale. Comparé aux 180 des Warriors ou 180 des Suns, ça veut dire qu'ils ont du cap space pour éventuellement faire des moves. Donc ça, c'est
est-ce
intéressant
qu'ils vont le faire
aussi.
Dès cette saison, c'est une autre question. Et alors après, maintenant, bon, bah, la première saison, c'est la plus importante parce que c'est celle sur laquelle on peut raisonnablement se projeter, évidemment. Là, maintenant, je vais vous demander de faire un peu de fiction. Jusqu'où vous le voyez aller? Qu'est-ce qui est possible pour ce mec? Le titre MVP, évidemment, on y pense.
Mais fais-toi est-ce qu'il soit pas All-Star la première saison?
Ah ouais.
Parce qu'avec cette hype-là, c'est-à-dire que les Américains sont fans de lui, il va arriver numéro 1 à la draft. Si les productions chiffrées sont bonnes, la hype au niveau du marketing
et tout
ça, et le vote des fans, méfie-toi que ça ne devienne pas le chouchou des fans et qu'il ne se retrouve pas comme Yao Ming. Alors, même si Yao Ming, il y avait la communauté chinoise qui avait voté en masse,
il
ne se retrouve pas All-Star. On est moins nombreux. Mais méfie-toi qu'il ne se retrouve pas All-Star dès la première année.
Carrément. Et après, en termes de carrière, c'est quoi un accomplissement quand tu es le deuxième élu après LeBron James? Il faut à minima un titre NBA quand même.
Un minima.
Pas qu'un.
Un minima, et effectivement, pas qu'un.
Et là, on parle de trucs. C'est-à-dire tout Wembanyama qu'il est. C'est très, très dur.
Déjà, c'est incroyable.
Non, mais bien sûr, mais je pense que c'est le type de joueur de base de la NBA moderne. C'est-à-dire que grâce à lui, on va évoluer sur une nouvelle façon de jouer au basket avec des mutants de plus en plus grands, de plus en plus techniques. Et je pense que oui, il doit amener son équipe à au minimum un titre NBA.
Ouais, Arnaud, comment tu vois ça ?
Ça dépend. Si on veut vraiment une carrière à l'ambition de LeBron, c'est déjà peut-être faire aussi bien que Tim Duncan en tant que Spurs. Donc c'est aller chercher les 5 bagues. Ça veut dire en avoir presque une de plus que Tony.
Ouais, mais
non, mais si tu veux, on rêve grand là.
Bien sûr. Non, mais c'est là moi, où je suis limite inquiet pour lui. C'est que faire 5 titres NBA, c'est pas toi qui le décide. Hein. Et tu peux être très fort et tu peux t'appeler Wembanyama ou qui tu veux. Ouais, ou même LeBron James, n'avoir jamais de bague NBA.
Ouais, sauf que les Spurs, franchement, c'est rare. Rassurant par rapport à l'organisation. Alors oui, Popovic n'est pas éternel, mais on parle de Steve Kerr éventuellement pour le remplacer. En tout cas, il y aura forcément un bon coach. C'est structuré, ça, c'est gagné.
C'est la folie du sport moderne. C'est-à-dire qu'on fait de stars des mecs qui ont tout à faire. Il n'a pas joué un match, une minute en NBA, et on imagine qu'il puisse avoir 5 bacs.
Mais pourquoi pourquoi on ne s'enflammerait pas ? Pourquoi les Américains ont eu le droit de faire la même chose avec LeBron James et au final, à raison, puisqu'ils ont, ils ont eu raison de promouvoir LeBron comme de chosen one alors qu'il était encore en high school.
Après, ils ont essayé de promouvoir Zion, ça a moins bien réussi quand même.
On verra dans quelques années.
Tu veux de Zion ou pas ?
Zion, non,
il
a fait des trucs bizarres, hein, Zion, notamment avec les femmes. Il a fait des trucs.
Il a des problèmes extra sportifs.
Ouais, avec des femmes.
Il lui manquait quelques cases.
Ouais,
hein.
Ouais, ah, des films.
Le premier samedi du mois.
Ah, c'est pas grave ça. Non, mais il a pas.
Il a dit.
Non, mais je veux dire, c'est pas de problème judiciaire que je.
Non, pas du tout. Problème judiciaire. Mais il faut aussi se rappeler que LeBron James. Alors, on ne l'a pas vu avec Michael Jordan parce qu'il a quasiment fait l'intégralité de sa carrière à Chicago. LeBron James est un des rares joueurs à avoir changé de franchise et fait gagner automatiquement. C'est-à-dire que c'était un franchise changer, en fait. Il est arrivé à Cleveland, il a enchaîné les finales dans une équipe qui était moribonde au départ. Il est arrivé à Miami, il a été champion, même si l'équipe a été forte avec D-Wade et avec Chris Bosh. Il est retourné à Cleveland. Tout de suite, Cleveland est revenu en finale et a été champion NBA. Est-ce que Wembanyama va avoir cette capacité, parce que la comparaison, il faut la faire avec LeBron, à changer le destin d'une franchise, ce que LeBron a fait.
On lui met des attentes que en fait personne ne peut assumer à cet âge-là. En fait, c'est ça le truc. C'est là où je trouve que
Mais est-ce qu'il en est pas conscient, lui ? Moi, j'ai l'impression qu'il en est conscient.
Et alors, s'il réussit, doublement bravo, hein, bien sûr. Hein, moi, je fais que lui souhaiter que tout ce qu'on lui prédise lui arrive, bien sûr.
Mais est-ce qu'il peut être dangereux, Pierrot ? C'est que les attentes qu'on a, s'il fait un petit peu moins bien.
Ça va être très dur de répondre aux attentes. Ça va être extrêmement difficile.
Il y aura l'équipe de France, on ne l'oublie pas, ça va arriver très vite. Hein. Là aussi, il y aura des attentes. Hein.
Oui, alors peut-être que les attentes en équipe de France sont moindres, parce que son quotidien, ça va être la NBA. Et ça va être la NBA.
Oui, mais ça va être l'attraction numéro 1.
Dans un an, il y a les jeux.
La Coupe du Monde cet été, je t'annonce.
Numéro 1 de la draft, je pense qu'il va avoir des attentes énormes aussi sur lui. Et surtout, alors, il y a la Coupe du Monde cette année, mais il y a les Jeux Olympiques dans la foulée. Et ça aussi, c'est hyper important.
Bon, notre producteur m'a remis à jour sur l'histoire que j'ai ratée de Zion. Une bonne petite histoire.
Vas-y, raconte-la nous.
Non, mais donc, non. Fred, est-ce que tu as des doutes sur le jeu ? Est-ce qu'il y a des choses encore qu'il ne sait pas faire, qu'il doit apprendre
Il doit progresser encore, et heureusement pour lui, parce qu'il faut qu'il ait une marge de progression. Mais moi, je pense que parfois, il manque un peu de dureté, sa prise de décision au niveau des shoots, elle n'est pas toujours parfaite. Parfois, il prend des shoots qu'il ne devrait pas prendre, mais je trouve qu'il a déjà progressé par rapport à ça. Son jeu de passe est à travailler encore, et défensivement, à l'impact, il a beaucoup de difficultés. C'est normal, il est encore très léger, mais par contre, en deuxième rideau, il est très bon.
Alors, je vais te dire, Steve m'a donné des places pour le match 3 de la finale, donc je te remercie, j'en profite. Et du coup, je l'ai vu, le gamin, pour une deuxième fois, non pas à la télévision, non pas sur des highlights, mais sur tout un match.
Je l'ai vu sur un Paris Basketball.
C'était vraiment pas terrible, il avait peu joué, il a eu très peu d'impact. Mais je trouve qu'il a une facilité défensive naturelle, même si tu me dis qu'il a du mal à l'impact et tout.
Oui, c'est normal.
J'espère qu'il n'y a aucun doute à avoir sur
Sur la dissuasion défensive, non, il y en a pas.
La dissuasion défensive, il va être monstrueux. Mais une fois qu'il sera un adulte, oui. Fini, terminé.
C'est
avec
pour ça que j'ai parlé de la deuxième lame. Là, sur la deuxième lame, il est exceptionnel déjà. Mais pour l'instant, sur le
par match, ça va être des trucs incroyables.
Maintenant, il faudra aussi.
Après, offensivement, on n'a pas encore vu un mec qui est capable de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire d'être ce fameux go-to guy, d'être le clutch player. Tout ça, c'est à écrire.
Il a été avec parcimonie avec les Mets. Maintenant, il va affronter des joueurs qui sont autres, et Vincent Collet l'a dit, il va pas avoir des John Brown et des Charles Caudi qui font 1,96 et qui lui arrivent à la hanche, là où il est le plus fragile quand on est grand et qu'on a,
un centre de gravité haut.
Un centre de gravité très haut. Il faut qu'il se renforce sur le bas des jambes. Maintenant, la dissuasion, le contre en deuxième rideau, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il va devoir aussi en NBA gérer les impacts sur les match-up 1 contre 1 direct quand il va avoir défendre sur peut-être des Jokic et des Joel Embiid sur du post-up.
C'est dans ce sens-là que je dis, l'impact, il doit progresser.
Là, on va voir s'il va être capable de résister de haut panier, s'il ne va pas se faire enfoncer trop facilement. Après, sur la dissuasion, quand les mecs ils vont venir mettre des lay-up et qu'ils vont voir Victor Wembanyama, bien sûr qu'il va changer les trajectoires, bien sûr qu'il va contrer.
Il sera forcément dans les meilleurs contreurs de NBA l'année prochaine déjà.
Sans aucun doute.
C'est un Basket Time spécial Victor Wembanyama. Basket Time tous les mardis en podcast, exceptionnellement mercredi aujourd'hui, car on s'est adapté bien sûr à l'actualité de Victor et d'Arnaud. Voilà, donc est en direct de New York pour notre deuxième thème, les autres attentes de cette draft 2023.
Scoot Henderson, first jump shot, got it.
And that's where Scoot has put in the work over the summer.
Ouh, Koulibaly!
Qu'est-ce qu'il est bon, Théo!
Where he's got to be careful. Takes it in on Mensah, switching to the left hand. Brandon Miller on the board.
Mika gets back to Henderson, finishes over Wembanyama. Scoot Henderson has showed he has got some skills early on.
Oh! Koulibaly! Oh là là!
Alors, quelles sont les autres attentes de la draft 2023? Il y a beaucoup d'autres Français. En tout cas, ça va être une draft très, très tricolore, très bleu-blanc-rouge. Arnaud, qui sont les talents attendus, hormis Wembanyama, dans la nuit de jeudi à vendredi?
On peut parler quand même d'un top 3 extrêmement dense. Alors, il n'y a plus d'incertitude pour la première place, mais il y en a une pour la deuxième. Alors, vous vous souvenez quand même que longtemps, la place de numéro 1, ces derniers mois et années, parce que les drafts, les mock drafts, ça se fait même sur plusieurs années, ça se jouait entre Victor et Scoot Henderson. Scoot Henderson qui est un petit peu comparé, on se dit, c'est le potentiel d'un Russell Westbrook à son prime. Bon, Las Vegas a clos le débat, Victor Wembanyama en 1, mais aujourd'hui, il y a un certain Brandon Miller, ailier très athlétique, que l'on voit un peu, selon les spécialistes de la draft, comme un Rudy Gay ou un Danny Granger, pour qu'ils s'en souviennent, est annoncé aujourd'hui potentiellement deuxième, sélectionné par Charlotte, parce que selon les insiders, il aurait fait très forte impression à Michael Jordan lors d'un workout privé. Donc
c'est
ça voudrait
bon
dire
signe,
Scoot en 3. Et en 4, on trouve Amen Thompson, meneur, dont le frère jumeau est aussi annoncé dans le top 10 de la draft. Et puis, il ne faut pas oublier, pour ce qui pourrait être vraiment... la sensation, alors il y a Victor, mais la sensation, c'est aussi un Français, c'est Bilal Koulibaly, plus jeune que Wemby de quelques mois. Il est présenté même comme un baby Giannis. Il va faire top 15, il est invité dans la green room, il pourra peut-être même faire top 10. On parle voilà, d'une sélection en 8e ou 9e position. On n'oublie pas Ryan Rupert qui est annoncé fin du premier tour aux alentours de la 20e position, lui aussi invité dans cette fameuse green room où seulement une vingtaine de joueurs sont conviés au pied de l'estrade où Adam Silver annonce les choix. Donc c'est quelque chose vraiment de très rare d'être invité dans cette green room. Et on a deux autres Français pour le deuxième tour. Sidy Sissoko, jeune de Saint-Maurice à côté de Paris, qui est parti aux États-Unis faire une saison, qui est annoncé au deuxième tour. Et également Nadir Rifi, la sensation du portel cette année en Betclic Elite.
Et du coup, ça veut dire que Scoot Henderson a reculé dans les mock drafts?
Il n'avait plus d'essence.
Non, mais il y a aussi le fait qu'il ne serait pas forcément avec LaMelo Ball, il ne serait pas forcément compatible. C'est un peu le même profil.
Donc,
il
n'y a
pas
vraiment de choix. Charlotte ne le choisirait pas, mais même en numéro 3, il nous a donné un autre nom.
Brandon Miller.
Ouais, c'est Brandon Miller. Ouais.
Brandon Miller très fort.
Brandon Miller en 2 et Scoot en 3 à Portland.
Ouais. Ah, d'accord. Ah, oui.
Et Amen Thompson en 4.
Ouais, tu nous as dit Amen Thompson. Oui. D'accord.
Le frère jumeau, le frère Thompson.
Scoot Henderson serait numéro 3, du coup.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen Thompson. Et non. Je sais pas.
Alors,
moi, je suis partagé.
Parlons des Français, peut-être, parce que bon, les Américains, il y a toujours beaucoup d'attentes, et puis, on sait très bien que c'est pas tes performances à l'université qui déterminent ta carrière en NBA. Mais les Français, on les connaît mieux, notamment Bilal Koulibaly, qui a fait une très belle fin de saison. Ryan Rupert, vous le connaissez très bien. Sidy Sissoko, il me semble que tu nous en avais parlé déjà il y a quelques mois, Fred. Qu'est-ce qu'on attend de ces mecs-là?
Moi, je trouve qu'il y a une différence entre Victor Wembanyama et les autres Frenchies. C'est que Victor Wembanyama, il va arriver, il va performer, et peut-être que le zone Frenchie, c'est peut-être un pari un peu plus sur l'avenir. Notamment Bilal Koulibaly, qui, oui, a eu une hype et qui a fait des playoffs fantastiques. Son gabarit fait fantasmer, parce qu'un gamin de 2 mètres avec 2 mètres 20 d'envergure, ça, les Américains en raffolent, et puis avec des qualités de, athlétiques comme
beaucoup
ça.
Vu, beaucoup vu grâce à Victor aussi.
Exactement. Il a profité aussi de ce cirque médiatique
autour de Victor. Vous pensez qu'il ne serait pas aussi haut s'il ne jouait pas à Boulogne-le-Valois?
Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde l'a vu.
Ouais.
Tout le monde a pu regarder les progrès de Bilal Koulibaly qui, en début de saison, jouait avec les espoirs.
Ouais.
Donc tu vois que son explosion.
Mais c'est un peu haut, non, top 10, non, pour lui. C'est incroyable. C'est totalement inattendu.
Ouais, moi, je le vois plus 13, 14, 15 par là. Top 10, ça serait, exceptionnel.
Beaucoup parlent de lui en 12 hein, à OKC.
OKC, ouais. Ouais. Ouais, après, écoute, il a des qualités. Il a des qualités pour la NBA. Il est ultra explosif. C'est un slasher. Alors, il faut qu'il progresse encore sur le tir, même si quand il est ouvert, il a mis dedans un petit peu cette année à 3 points. Mais il fait fantasmer par son envergure. Après, Ryan Rupert, là aussi, je pense que pas terminé. Ryan, c'est un ailier de très grande taille qui doit progresser sur le tir, mais qui est très très bon défenseur avec des longs segments, mais pour moi encore pas prêt pour la NBA. Donc il sera peut-être mis en couveuse, ou j'espère dans une équipe où il pourra avoir des minutes et pas une très forte équipe prétendant au titre, parce que plus il est drafté bas, plus il va arriver dans une équipe qui a des choses à jouer.
Ça a été dur ces dernières saisons pour les jeunes français, hein. même choisi haut,
oui.
Hein.
Oui, ça a été compliqué. Hein. Oui, ça a été compliqué. Puis Sidy Sissoko aussi, il a des qualités, mais pas fini encore. Hein. Pas fini, c'est un slasher. Athlétique,
c'est quoi,
qui peut devenir un très bon défenseur,
qui percute, qui finit au cercle.
Okay. Ça peut devenir un très très bon défenseur, hein, Sissoko. Par contre, et juste pour revenir sur Koulibaly, il a 2m19 d'envergure. Hein. Donc c'est un joueur capable de défendre sur n'importe quel poste à peu près. Il a une détente sèche qui est plutôt correcte. C'est un vrai physique, un vrai potentiel. Mais comme tu le dis, hein, pour moi il n'aura pas l'impact tout de suite comme un Wembanyama, mais par contre un potentiel énorme.
Mais
tiens Fred, les chiffres juste pour compléter. Donc voilà, les 2m10 d'envergure, il est mesuré à 2m03 avec chaussures, 2m72 les bras levés, et la détente sèche, il est presque à 1 mètre avec élan, 96 cm, 78 cm sans élan. C'est quand même, quand tu vois, je lisais, il le présente comme un baby Giannis. Il y a un petit truc quand même. Alors, la comparaison est quand même très flatteuse, mais on voit un peu ce qui ressort de ce profil. Hein.
Mais ouais, t'as raison. Mais quand je vois aujourd'hui les frères jumeaux là, qui vont être draftés très haut,
Thompson.
Ouais, pour moi, il n'y a pas une énorme différence entre Bilal Koulibaly et ces deux gamins-là qui jouent en overtime elite. Bon, qui est une ligue où ils jouent contre personne dans des gymnases de high school où il n'y a pas un chat, qui sont deux athlètes hors normes. Mais le Amen Johnson, je t'annonce lui, c'est Baby Giannis, il envoie brique sur brique, hein, il fracasse les plexis, il ne peut pas mettre un tir. C'est un mutant athlétique, mais qui a quand même une énorme carence sur le tir.
Bonne lecture de jeu, il distribue bien. Alors oui, il met. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais par contre, vrai meneur, oui, où il amène le ballon où il faut,
pour moi, il n'y a pas une énorme différence non plus entre Bilal Koulibaly qui a joué dans une ligue de bonhommes, qui a joué des playoffs contre Monaco et compagnie.
C'est pour ça qu'il est si haut.
Exactement. Et c'est une draft qui est particulière, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons qui vont être draftés très haut et qui ne sortent pas de la fac NCAA. Il y a la Init League pour Scoot Anderson, il y a la Overtime Elite, il y a les mecs qui jouent en Europe. Et aujourd'hui, le cursus NCAA, c'est plus le cursus principal pour les mecs qui veulent se faire drafter.
Au contraire. Oui.
Et Arnaud, tu nous as cité Nadir Hifimi, il vient pas de signer à Paris, lui ?
Si, mais bon,
si,
il a forcément des clauses,
auquel cas il est sélectionné, ça va discuter avec la franchise.
Et au cas où il ne soit pas drafté, il reste à Paris.
Oui, voilà.
C'est ça. Et même s'il est drafté, il pourrait rester un accord avec la franchise de dire il est peut-être mieux au Paris Basketball.
Il a des qualités de scoreur.
Il a des grosses qualités de scoreur. Il peut défendre
aussi.
Moi, j'aime bien sa façon de défendre aussi, mais beaucoup de pression. Ça, il peut shooter dans tous les sens, il a effectivement peur de rien, mais t'as vu, hein, il a beaucoup travaillé, je trouve que physiquement il a déjà pris, c'est devenu
il a
fait des workouts après le portail, il est parti, il a bossé avec les Lakers, après il peut revenir en Europe, hein, c'était le cas de Bégarin et Kamagaté qui ont été draftés et qui sont restés au Paris Basketball, mais Nadir Hifi, s'il est drafté, ça sera fin de deuxième tour.
Au pire, s'il s'impose pas, il pourra bosser chez Darty.
Oui, bravo Pierrot, je me suis dit qu'il va la faire.
J'attendais qu'il la fasse, mais bon, aujourd'hui je sais pas, t'es pas en forme.
En fait, j'ai tellement fait en fait Hifi, Stéréo et tout ça que je me dis, tiens, je veux pas la faire.
Ouais, c'est des idées de génie.
Tu veux dire que tu vas plus sur les blagues faciles ?
Hifi, des idées de génie.
Excellent, tu peux prendre le relais.
Un mot de Brandon Miller quand même, qui est un joueur particulier.
Vas-y.
Qui est un ailier de très grande taille, il fait 2m06, exceptionnel tireur, 40% à 3 points avec 7 tentatives. Athlétique, il était à la fac à Alabama. Il est très longiligne, énorme joueur. Après, il y a eu des. Alors, ses carences, c'est qu'il est âgé. Il a 21 ans.
Ouais, ça fait bizarre de dire ça, mais il a 21 ans. Il aura 21 ans.
Et que les franchises NBA aiment bien prendre des gamins de 19 ans qui ont encore une éventuelle marge de progression. Donc là, c'est une vraie carence. Et la deuxième, c'est ce qui s'est passé hors terrain cette année. Il y a des doutes. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a eu une fusillade sur le campus.
Mais c'est lui qui a fourni l'arme.
Il y a une mère de famille qui est morte. Et le principal suspect, et les deux ont avoué que c'est Brandon Miller qui avait donné l'arme au principal suspect. Finalement, le principal suspect a été reconnu non coupable. Par contre, le gamin est fort parce que le jour où l'histoire sort, il met 41 points avec sa fac Alabama, avec le panier de la gagne. Donc le mec, il arrive quand même à supporter.
Ou alors il s'est dit, c'était la dernière fois qu'il peut jouer.
Oui, peut-être aussi.
Donc pour toi, un œil sur Brandon Miller, ouais. Arnaud et Fred, s'il y en a un que vous allez suivre particulièrement, c'est qui, Arnaud ?
À la draft, j'ai envie de voir Bilal Koulibaly quand même. Mm-hmm. Parce que il y a un an, il était en espoir, il n'avait pas encore de minutes en pro. Et par la médiatisation des matchs de Victor Wembanyama diffusés sur League Pass NBA, l'engouement, on se dit, mais il est fou ce gamin, même si beaucoup de formateurs avaient prédit qu'il y avait un énorme potentiel. Mais là, de le voir aux portes du top 10 de la draft, il y a un an, je pense que personne n'y aurait cru.
Et toi, Fred ?
Il y a un mec de Kansas qui s'appelle Grady Dick.
Grady Dick. Ouais. Ok, donc t'as pas abandonné sur les blagues, j'ai compris. Fred.
Et il peut être drafté à 11, hein, apparemment. Il est prévu à Orlando, Dick. Peut-être en 11. Ouais, Dick. Ouais. Ouais.
Ils sont cons.
C'est Dick à la plage, quoi.
Fred, il y en a un, toi, que tu vas suivre.
Ouais, moi, j'ai envie de savoir ce qu'il va en être de Ryan Rupert, parce qu'il est effectivement invité dans la green zone. Il a fait des workouts et apparemment sont plutôt bien passés. Par exemple, les Hawks qui sont 15e, les Pacers qui sont 7, 26 et 29, et Utah qui est 16e aussi. Il a fait des bons essais chez eux, il travaille bien. Je voudrais savoir ce que c'est vraiment de la formation en Nouvelle-Zélande. Donc voilà.
Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Cette semaine, c'est un spécial Wembanyama et c'est l'occasion de parler des Français de la NBA. La partie historique, c'est tout de suite et vous allez me dire qui est le Français qui vous a le plus surpris en NBA.
Espoir à Évreux, été 93, Olivier Saint-Jean décolle pour les États-Unis. Une brève expérience à Michigan, puis il rejoint l'université californienne de San Jose State. Après une belle saison et avec un an d'avance, il décide de tenter sa chance à la draft 97.
Si j'étais pas sûr d'être en premier tour de draft, je ne serais pas présenté à la draft. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pas une décision aveugle, c'est pas une décision qu'on fait à moitié. Et je suis très, très, très confiant de mes chances pour entrer cette draft en 97.
Tout a débuté un matin quand à 10h10, 10, je fais tirer du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du dessous en bon fan d'Elvis, qui passe ses week-ends à foutre à fond des lives de Memphis.
Il est énorme, bravo, bravo Steve.
C'est un classique ça.
Ah bien sûr.
Tu connais, Fred.
Le pire, c'est que j'ai quasiment pas dormi de la nuit.
Et voilà.
Sachez qu'hier au soir, je suis sorti, mec.
Bon, alors, quelle est la plus belle surprise de l'histoire du basket français en NBA ? Les surprises, hein. Même parlez pas de Tony Parker, évidemment, parce qu'on l'attendait.
C'est une surprise quand même.
Alors, qui est pour toi, Fred, la plus belle surprise de l'histoire du basket français en NBA ?
Même si parfois il m'a mis la fièvre, c'est Olivier Saint-Jean.
Ah, le fameux qu'on vient d'entendre.
Qui à l'époque s'appelait Olivier Saint-Jean, hein, c'est pour ça que je l'appelle comme ça.
Devenu Tariq Abdul-Wahad.
Exactement, devenu Tariq Abdul-Wahad. Effectivement, il a joué à Évreux en Pro B d'abord, et puis il en avait marre parce qu'il était considéré comme un pivot par les dirigeants français, et donc lui, il voulait plutôt jouer poste 2-3. Donc il s'est dit, je vais tenter l'aventure aux États-Unis. Il arrive au Wolverine de Michigan, où il joue pas beaucoup, il est un peu blessé. Il rebondit assez rapidement à San Jose State.
Mais c'est-à-dire qu'il allait faire sa fac là-bas ?
Il allait faire sa fac là-bas. Et donc il va à San Jose State, et là c'est le début. Sa première saison, il a 17 points, 6 rebonds, il finit à 23,8 points, 8,8 rebonds, et il sera drafté en 97, en 11e position par les Kings. Alors, tu vas me dire pourquoi c'est une surprise. Alors déjà parce qu'il partait d'Évreux où il devait être un poste 4-5 et finalement il va évoluer en poste 3. Ensuite, la dernière fois qu'on avait eu un mec drafté, c'était du jamais fait. Drafté au premier tour en NBA, c'était du jamais fait parce que oui, on avait eu un Français qui avait été drafté déjà. C'était Jean-Claude Lefebvre en 1960, un garçon de 2m18 mais qui n'y avait jamais évolué. Alors Tariq Abdul-Wahad,
on pensait que c'était pas possible tout simplement.
On pensait que c'était pas possible, c'était un pionnier, c'était quelque chose de fantastique. Alors une surprise. Alors apparemment, on l'a entendu parler tout à l'heure, pas pour lui, mais pour nous de France, surtout en étant passé par une petite fac comme San Jose State.
On disait que c'était pas possible.
C'était en 97 qu'il est drafté, donc moi j'avais 20 ans.
Ok.
J'avais 20 ans, donc.
T'as, t'as vu ça, t'as, tu dis.
On s'est dit incroyable. On se disait que la NBA c'était impossible. En fait, il faut vraiment recontextualiser. À l'époque, quand on parlait de NBA, on parlait de joueurs qu'on n'atteindrait jamais. Mmh. On ne jouerait jamais en NBA, etc. Et Olivier Saint-Jean, Tariq Abdul-Ouad, ils ont réussi. Tous les deux, à faire cette chose qui pour nous paraissait être quelque chose de complètement fantastique, d'incroyable, etc. Sachant qu'il fait, après il va à Orlando, où il fait même une saison à 12,5 rebonds, il signe un contrat de 43 millions de dollars sur 7 ans. Alors oui, il n'aura jamais la possibilité de vraiment l'assumer, ce contrat, mais voilà, il a été le pionnier, il a été celui qui a donné l'opportunité et la possibilité de rêver vraiment aux Français. Et je pense que si on a eu des Tony Parker, des Boris Diaw, etc. en NBA, c'est aussi grâce à lui.
Alors à toi, Steve.
Écoute, moi j'ai choisi Ronny Turiaf, qui a été drafté au deuxième tour, 37e choix par les Lakers, après avoir fait 4 ans à Gonzaga. Et quand tu es drafté au deuxième tour, tu n'as pas de contrat garanti. Et lui, il arrive en Summer League, il arrive à convaincre les Lakers de le signer parce que, par son envie, par sa rage, par le cœur qu'il met sur le terrain. Et avant la signature du contrat, tu as forcément une visite médicale. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème à l'aorte et qu'il faut opérer à cœur ouvert. Donc forcément que sa carrière sportive est mis entre parenthèses. Mais à l'image de Ronny et de sa personnalité, il arrive à s'en sortir. Et 6 mois après seulement une opération à cœur ouvert, il rejoue, il démarre sa carrière NBA avec les Lakers. Et ça devient rapidement le chouchou des fans au Staples Center. Parce que par son énergie, sa joie de vivre, sa rage mise sur le terrain, et il devient vite également le coéquipier préféré et aimé de Kobe Bryant. Il fait une finale NBA avec les Lakers en 2008, une défaite contre les Celtics. Après, il va aux Warriors, aux Knicks, à Washington. Il débarque à Miami dans une équipe de mutants avec LeBron, avec D-Wade, avec Chris Bosh. Et il deviendra champion NBA sur une campagne de playoff où 7 fois il sera starter, même s'il aura un petit rôle en finale, mais il aura démarré 7 rencontres sur la campagne des playoffs. Ronny Turiaf, c'est un peu l'incarnation même de la belle histoire à l'américaine, c'est-à-dire que tu peux réussir, tu peux avoir une belle carrière en n'étant pas le meilleur joueur, mais en ayant su se muer en coéquipier modèle et en role-player et avec un magnifique état d'esprit. C'est quand même plus de 500 matchs NBA en 10 saisons. Et puis Ronny, ami de Kobe, aujourd'hui leur destin est lié à vie, puisque quand on se remémore ou on commémore la mémoire de Kobe Bryant et des exploits de Kobe Bryant, il y a un highlight qui revient en boucle et c'est Ronny Turiaf à la finition. Écoute ça, Pierrot.
Buki, inside of 7 to play at 95-90 juice. Behind his back, on a spin. Ronny, and the slam. He'll go to the line. Look at the play. The crowd was on their feet. Look at that one. Behind the back, the spin. Nice play. And then the three-point opportunity coming to Ronny Turiaf.
C'est une action où Kobe remonte le terrain, il fait 2 reverses, il lâche une passe comme ça dans le dos par-dessus un défenseur et Ronny arrive et met un énorme dunk avec la faute. Et cette image, elle ressort systématiquement quand on parle de Kobe Bryant.
Ronny Turiaf, donc pour Stephen, la plus belle surprise française de l'histoire de la NBA. Quelle est ta surprise pour toi, Arnaud ?
Écoute, j'ai pris le joueur français non drafté qui a eu la meilleure carrière, c'est Yacouba Diawara. Donc dans les années 2000, jeune joueur français qui est formé à Dijon, il tente l'aventure au niveau de la fac aux États-Unis, notamment à Pepperdine qui n'est pas une grosse fac, donc il ne se retrouve pas drafté, on est en 2005. Il rentre à Dijon où il est coaché par Jacques Monclar à l'époque, il fait une super saison à 17 points. C'est un arrière-ailier hein, de 2m01 le Yac, même plus ailier fort on va dire peut-être à la fin aussi parce que il avait pris un peu de muscle, un peu de poids. Et finalement, il va faire une petite carrière NBA à Denver, qui le remarque après sa saison en Italie à Bologne. George Karl, notamment lors des camps d'été, il tape vraiment dans l'œil des Nuggets. Et George Karl l'a vraiment beaucoup apprécié. Il va rester 2 ans aux Nuggets, ensuite aller du côté du Heat. Il va faire un peu moins de 200 matchs NBA. Ça reste modeste, mais je trouve l'histoire belle. Après, il est revenu en Europe au début des années 2010. International, il a gagné l'Euro Junior avec cette génération Azadar en 2000, Tony Parker, Boris Diaw et compagnie. Il fait partie de cette équipe coachée par Pierre Vincent. Mais voilà, j'aime beaucoup l'histoire du Yac qui aura quand même eu plus de 40 sélections en équipe de France.
Tu sais pourquoi moi j'aime pas cette histoire de Yacouba Diawara?
Pourquoi?
Parce que lui, il m'a privé de 25 000 euros, Yacouba Diawara. C'était la prime de qualif à l'Euro avec l'équipe de France où on joue à Limoges et c'est lui qui prend le tir à 3 points dans le corner pour gagner, pour se qualifier et il a loupé. J'ai pas eu la prime.
25, c'est pas 25, mal.
Ça met du beurre dans les épinards.
Ah ouais.
Du beurre persil.
Sur un shoot à 3 points, quoi.
Ouais.
Ça fait mal. Il est encore en train de la gorge.
Il a pris ses responsabilités, il faut respecter.
Depuis, tu as gagné tellement d'oseilles.
Sachant que Tipeee, sur ce match-là, avait mis 37 ou 38 et qu'il fait la passe à Yacouba en pensant qu'il allait lui rendre. Bon, le yak, parfois, le yak, il avait cette tendance à pas se poser beaucoup de questions.
Bon, très bien, on va terminer avec un quiz sur les Français de la NBA.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony, on va dire Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Mais quel porciné peut shooter sans scrupule.
Quel croquette.
Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple double.
Oh, Yaya Nicolas. Russell Westbrook. Ah, ok, si.
Moi, je redis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Alors, les Français de la NBA, mais il y a un quiz, des questions que je n'ai jamais posées, je pense.
Qu'est-ce que tu fais, Fred ?
Tu traites ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te notes des noms ?
Qu'est-ce que tu fais, Fred ?
Flagrant délit.
Calmez-vous.
T'as le droit de travailler.
Non, mais c'est surtout que je note des noms comme ça au hasard.
Mais t'as le droit de
travailler. J'ai mis Stephen Brun, donc il n'est pas drafté en NBA.
Au hasard. Ne te laisse pas impressionner par la grande saucisse. T'as le droit de travailler le quiz. Du moment que tu ne cherches pas pendant les questions,
Exactement.
Très bien.
Alors, concentrez-vous bien déjà sur la première question.
Il y a un piège ?
C'est pas un piège, c'est que la question elle est un peu alambiquée.
Ah, okay.
Comme
la spéciale d'Orient.
La spéciale d'Orient. Qui est, à l'heure où on se parle, et dans l'ordre chronologique, qui est le dernier Français drafté en NBA ?
Dieng.
Non.
Kamagaté.
Non.
Le dernier Français drafté ?
Besson.
Non. Après Dieng, il y en a eu un deuxième. Deuxième tour l'an dernier.
Adam Mokoka.
Troisième position. Non. Mokoka, il est...
Bégarin ?
Non. Bah, c'est toi le plus proche, Fred. Hein. Il y a eu Dieng et l'an dernier, 2022, draft 43e position, deuxième tour.
Je l'ai pas non plus.
Par les Clippers.
Je l'ai. Ah, puis bon, Mohamed Diabaté.
Moussa Diabaté.
Oh, toi, tu vas pas me l'enlever parce que j'ai Diabaté, c'est bon.
T'as dit Mohamed Diabaté. Je l'accorde à Arnaud. Moussa Diabaté, je l'accorde à Arnaud. T'aurais dit juste Diabaté, je peux te donner.
Ah dis-moi,
Mohamed Diabaté.
Mohamed Diabaté,
il n'existe pas, ou peut-être il existe, mais il n'est pas drafté en NBA.
Non, mais attends, j'ai trop posé la question. Le point est accordé à qui ?
À Arnaud Valadon.
Ok.
En direct de New York. Live from New York.
Pas de problème, j'ai compris comment
New
ça se passe.
New York. Je le gratifie d'un point parce qu'il est en direct de New York, c'est comme ça.
D'accord.
C'est la folie des États-Unis.
J'aurais pu dire solo, Diabaté, qui a vraiment joué en plus.
Oui.
Allez, essaye de te rattraper sur la charade. Mon premier.
Je prends une carotte.
Mon premier a gagné 4.
C'est prénom et nom.
C'est bien sûr toujours prénom et nom. Mon premier a gagné 4 trophées majeurs cette saison. Mon deuxième est un mendiant du Moyen-Âge. Mon troisième est un accessoire indispensable pour se protéger du soleil sur les routes du Tour de France.
Casquette.
Mon quatrième est plus petit que le cygne, mais plus grand que le canard.
Hein ouais, tu m'as perdu de ouf. Je me rappelle même plus le premier.
Casquette poussin.
Non, Bob. Non. Bob ou quelque chose, je pense.
Mon premier a gagné.
Rodrigue Beaubois.
Excellent.
Ah, une noix.
Arnaud, il a pas fait de bruit. Il a bossé. Il a taffé dans son coin. Il a noté mon premier, Rodrigue.
J'avais l'oie, mais c'est Fred qui m'a aidé sur le Bob.
C'est quoi,
Rodrigue, qui a gagné les 4 trophées majeurs cette saison, le joueur de Manchester City.
Mais c'est qui le mendiant ?
Le gueux.
Le gueux.
Ah, le gueux.
Rodrigue. Babois. Deuxième point pour Arnaud.
Alors, point, oui.
Mon tout quand même, faut le citer. Hein,
a mis 42 points.
A gagné la NBA et l'Euroleague.
Oui.
C'est beau ça quand même.
Bah, bravo, Rodrigue.
Très rare.
Bravo, Rodrigue. Il a gagné l'Euroleague deux fois en plus.
Deux fois, absolument.
Par contre, je fais une petite contestation. Hein. Pour moi, Hugo Besson a été drafté après. Il a été drafté en 58e.
Deuxième tour, ouais.
22. Donc, pour moi, j'ai la bonne réponse.
Alors, moi, je veux bien accepter. Si j'ai fait une erreur, moi, je te redonne le point. Il n'y a aucun souci.
Ouais, ça me semblait bizarre aussi.
Alors, je te le donne.
Mais tu vas te dédouaner sur quelqu'un, là, ou c'est toi ?
C'est moi, là. Je l'ai raté, celui-là. C'est
draft 2022.
Hugo Besson.
On va vérifier tout de suite.
Draft. Il est 58e.
2022.
Je vérifie aussi.
Non, mais c'est pas à peine de vérifier, il est 58e.
Oui, il est 58, oui.
Ouais, bah alors, bravo, Fred, t'as le point. Je me flagelle.
Il n'y a pas de problème.
Donc, un point pour Arnaud, un point pour Fred.
On ne peut pas faire des quiz comme ça. Hey. Il n'y a rien qui est tenu. C'est pas possible.
Attends, t'es pas France,
Moussa Diabaté.
C'était
Mohamed Diabaté, finalement.
Alors attention, vous êtes prêts ? C'est
Hugo
bon,
Besson,
passer à la suite.
Ouais. Ah, okay. Comment tu fais pour te tromper ? Tu ne vas pas jusqu'au bout. En fait.
Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avoue, je ne sais pas ce que j'ai fait. Okay. Qui parle dans cet extrait ?
Comme j'ai raté un peu du début de saison, et surtout des entraînements,
T'arrives à vouloir Olivier Saint-Jean.
Même niveau technique.
Là, je l'accorde à Steve. Parce qu'à l'époque, il s'appelait Olivier Saint-Jean, mais là, je vais te le donner.
Merci.
Sinon, je risque de ne pas finir le podcast. Ça serait dommage. Un point pour tout le monde. Ah, très intéressant. Cette saison, quel est le Français qui a la meilleure moyenne de points en NBA?
Rudy Gobert.
Et c'est Rudy Gobert, Rudy Gobert, exactement, avec 13 points, 13,4 points, et Kylian Hayes est deuxième avec 10 points, donc ça n'a pas atteint les sommets hein, cette année, non. Les Français en NBA. Alors là, attention, nouveauté incroyable, exceptionnelle.
C'est la tactique.
Vous allez devoir deviner un joueur français en NBA, avec pour seul indice...
Un Français qui joue ou qui a joué?
Qui a joué dans l'histoire. Ouais. Avec pour seul indice, la ligne de stats... de son premier match NBA.
Wow. De son premier match.
T'es sérieux?
Qui joue maintenant, donc?
Non,
on sait pas.
Il peut avoir arrêté sa carrière. Alors, pourquoi cette tactique? C'est tellement dur que je vous accorde 2 points par bonne réponse.
Ouais.
Mais vous allez jouer chacun votre tour. Hein. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse.
Ah, c'est à tour de rôle?
À tour de rôle.
Ok, d'accord.
Vous n'avez le droit qu'à donner une seule réponse. Il y aura la ligne de stats et dans un deuxième temps, je vous donnerai le match et la date.
Pour un point, ça.
Pour un point, okay. Exactement. Mais comme vous n'avez qu'une seule réponse, c'est tactique.
Oui.
Est-ce que vous le tentez le 2 points ou pas?
Il est content.
Ok. Alors, qui commence? C'est Arnaud qui commence. Arnaud, premier match, la ligne de stats est la suivante. 10 minutes, tout de même. 5 points, 0 rebond, 1 passe.
Comment aurais-tu trouvé ça, moi?
Je vais tenter.
Tu tentes, tu veux pas la date et le match, donc très
non,
bien.
Non, je vais tenter.
Vas-y.
Ah, j'ai peur. Tony Parker.
Alors, excuse-moi, j'ai oublié une autre indication. Il n'y aura pas Tony Parker. Voilà, il n'y aura pas Tony Parker.
D'accord.
Voilà. Ah. Je l'avais noté.
Donc, c'est 5 points, une passe, la stat.
Regardez, je vous le prouve, c'est écrit là, j'ai oublié de vous le dire.
Il n'y a pas Tony Parker, c'est vrai.
Okay. Ah, allez, vas-y.
Du coup, non, je vais tenter le club.
Alors, c'est une défaite de Denver contre les Sixers le 31 octobre 2012.
Denver, Evan Fournier.
Evan Fournier, c'est bon, Arnaud, bravo. Alors, on enchaîne avec notre ami Fred Weiss. 23 minutes. Ah, un joueur qu'on attendait. 23 minutes, 2 points, 7 rebonds, 0 passe. À 1 sur 2 au tir.
S'il y avait eu des passes, j'aurais dit Noir, mais...
Bah du coup...
Bah Noir, je vais dire Noir.
Tu dis Noir, tu tentes. Ouais, mais c'était l'autre, c'était Rudy Gobert. Ouais, 2 points, 7 rebonds, t'aurais pu trouver. À toi, Steve. Oh, 2 points, 3 rebonds.
Combien de minutes?
Attends. 2 points, 3 rebonds, 0 passe en 4 minutes.
Ah, frère.
Tu tentes ou tu...
Je tente pas. Non.
C'était le 28 octobre 2008, défaite de Portland contre les Lakers.
Nicolas Batum.
Et bien sûr, c'est Nick Batum.
Tu
te rends compte, 4 minutes.
C'est facile maintenant qu'on sait que c'était Portland.
4 minutes, son premier match.
Oui.
À toi, Arnaud. Une belle ligne de stats. En 12 minutes, 2 points, 3 rebonds et 1 passe pour son premier match en NBA. Je vous donne une autre indication. Il n'y a aucun joueur obscur. Hein. Il n'y a pas d'Adam Mokoko ou de mecs comme ça.
Mokoka.
On s'excuse, Adam.
Écoute, je vais tenter le 2 points.
Oui, vas-y.
Joachim Noah.
C'est pas Joachim Noah.
Ah,
c'est pas Joachim Noah. C'est un joueur qui a fait une grande, très grande carrière NBA. C'est Boris Dio. Avec Atlanta.
Ton joueur.
On arrive sur qui là? Sur Fred. Fred. Fred, 2 points, 4 rebonds. En 19 minutes tout de même, 0 sur 4 à 2 points, 2 sur 2 au lancer. 19 minutes. Pour son premier match NBA, c'est pas mal. Hein.
Mike Pietrus.
Mais c'est Joachim Noah, toi.
Mais j'étais sûr que c'était le Jux.
Celui-là, vous pouviez le trouver, celui-là, non?
Ouais, sorti de la fac, Florida, des minutes.
2 sur 2 au lancer, ça nous a induit en erreur aussi.
Ouais, c'est ça.
Et on termine avec Steve, qui a un point d'avance déjà. Attention, Steve, tu peux faire une énorme différence. Là, attention, elle est magnifique, celle-là. 0 point, 0 rebond, 0 passe en 1 minute à 0 sur 1 au tir.
T'es content, hein? Je prends pas les 2 points.
Tu prends pas les 2 points? C'est en 2006, victoire des Lakers sur Houston.
C'est Ronny Turia.
C'est Ronny Turia, bravo. Un point de plus pour Steve qui en est à 4. Arnaud 2 et Fred 1. Question rapidité. Hormis Boris Dio, citez-moi un joueur français qui a joué aux Suns.
Elio Kobo.
Oui, bien joué.
Et qui est l'autre? Il y en a un autre.
Timothée Louis-Cabarro.
Mike Pietrus. Donc ça fait 5 pour Steve, 2 pour Arnaud, 1 pour Fred. Et là, attention. Là, attention. Chacun votre tour, vous allez me citer. C'est la question multipoint et c'est la dernière. Une joueuse française qui a évolué en WNBA.
T'es content.
Alors, on compte pas les 3 qui sont draftés cette année. D'accord.
Oui, ok.
Alors, c'est parti. On démarre avec Fred.
Lucienne Berthieux.
Excellent, Lucienne Berthieux. Bravo, bravo Fred.
Bravo.
Lulu, hé Lulu.
Elle est à l'INSEP.
Pour plus tard, Arnaud.
Sandrine Gruda.
Sandrine Gruda, évidemment, c'est bon.
Championne.
Ensuite, Steve.
Edwige Lawson Wade.
Edwige Lawson, c'est bon. À toi, Fred.
Audrey Sauret,
bravo. Il cite tes anciennes, tu devrais les garder, toi. C'est bon. Arnaud.
Marine Johannes,
c'est bon. Steve.
Isabelle Fijalkowski,
bravo Steve, c'est bon. À toi Fred.
Iliana Rupert,
c'est bon, bravo Fred. Arnaud.
Céline Dumerc,
bravo, c'est bon. Très bien, vous êtes bon quand même. Hein. À toi Steve.
Diandra Chachuang.
T'es sûr de toi?
95%.
Allez, on vérifie.
Vu que t'as fait une saucisse tout à l'heure.
On vérifie. On vérifie parce que je ne l'ai pas sur ma liste. Alors, on vérifie tout de suite. Voilà. Crac, Montpellier, Bourges, Tango, Perpignan, Montpellier. C'est pas bon. Allez, vous pouvez gagner ce quiz.
Drafté en 20e position par les Silver Stars de
Saint-Denis. Ouais, mais
est-ce qu'elle a joué? Elle n'a sûrement pas joué. Aïe.
Elle a sûrement fait quelque chose. Je vais regarder.
Alors, Steve, t'en es à 7 points. Arnaud à 5 et Fred à 4. Il vous reste pas mal de joueuses encore. Hein. C'est à Fred. Il y en a encore des faciles. Je te dis, il y en a encore des faciles.
Moi aussi,
je
suis vraiment un abruti. Ah oui.
Allez, Fred.
Ah, je vois pas.
En plus, j'en ai 50. T'es sorti
du match. Aussi, mais là, je vois pas.
T'es sorti du match à cause de Steve. Ouais. C'est incroyable. Fred, le mental revient dans le match. Merde. Il y a même quelqu'un qui a participé à ce podcast.
Ah merde, je coupe plus son nom. Je sais plus, j'arrive plus, je comprends plus.
C'est pas grave, tant pis. Arnaud, tu peux encore gagner ce quiz en direct de New York, vas-y.
Andy Miem,
c'est bon. J'arrive à 6 points. Il t'en manque 2 encore pour gagner.
Ah, faut tout dire. Oh.
C'est lui.
Faut tout dire. Non, mais faut que tu dépasses Steve, c'est tout. Alors.
Elle n'a pas eu quelques minutes, Marine Fautoux, l'année dernière?
Eh bien, non, j'ai vérifié Marine Fautoux, non.
Il y avait Gabby Williams, non?
Ah, mais oui, oh!
Je l'ai pas compté, Gabi. Mais quand même, il y avait Emeline Ndong.
Emeline, j'ai retrouvé.
Sabrina Pali.
Ah oui.
Et Valériane Ayali, vous m'avez pas cité.
Briard Hartley, ça aurait compté.
Ainsi que Laure Savasta. Et ça, t'aurais pu le dire.
Laure Savasta, bien sûr.
Et donc, c'est une nouvelle victoire de Stephen. Bravo.
Arnaud a craqué sous la pression.
Ouais, exactement. Je pense que ça les a complètement déstabilisés.
Mais c'est pour Arnaud, il a craqué. Chachuang. Parce qu'il y a les The Benedict qui l'attend au buffet, au buffet à New York.
C'est totalement ça. Je manque d'énergie.
Bah, bon petit déj et à la semaine prochaine.
Ciao.
Bye.
RMC Basket Time.